Place publique. En effet, la criminalité baisse, sauf sur Internet où elle est en nette augmentation. C'est le constat dressé cette semaine par l'Office fédéral de la statistique et par plusieurs polices cantonales, y compris dans notre région. Vol de données numériques, escroquerie aux petites annonces en ligne, demande de rançon, etc. Les malfrats délaissent le pied de biche pour les écrans. On en parle avec vous, Stéphane Corr. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes conseiller en questions numériques. Est-ce que la cybercriminalité explose ou est-ce qu'on dispose simplement de plus de moyens pour l'identifier? Un peu un effet de loupe.
Alors, c'est plutôt une combinaison de plusieurs facteurs. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de moyens de l'identifier, mais il y a aussi une utilisation qui se fait de plus en plus forte. C'est-à-dire que notre société se transforme numériquement. De plus en plus de services sont dématérialisés. De plus en plus de choses se font à travers Internet. Et donc, de manière assez logique, il y a aussi une recrudescence de la criminalité par tous ces aspects-là. Beaucoup d'arnaques, beaucoup de fraudes à l'astuce, entre autres aussi, qui peut se faire grâce à cette dématérialisation ou à cause de celle-ci.
Et on parle du sommet de l'iceberg.
Oui, alors tout n'est pas dénoncé, c'est comme des agressions et autres, quand les gens se font avoir à travers par exemple des cas de sextorsion, donc chantage, soit des chantages à la webcam par rapport à des contenus à caractère sexuel, ou toute cette campagne qui avait commencé en août de la 2018 avec des emails que les gens recevaient alléguant qu'ils avaient évité des sites pornographiques et que maintenant on avait piégé leur ordinateur et qu'ils devaient payer. Ben, beaucoup de personnes ont payé alors que c'était une arnaque, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien derrière et des gens ont payé simplement pour se préserver, mais ils n'ont pas été annoncés ça à la police. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas forcément dénoncés parce que les gens veulent se préserver en termes de réputation par rapport à leur image, pas perdre la face. Donc oui, ça ne représente pas la réalité de la situation, ces chiffres.
Un tabou. La cybercriminalité, c'est un phénomène bien sûr très vaste hein, qui décrit autant l'escroquerie, par exemple l'achat d'un téléphone sur Internet qui n'arrive jamais à destination, que la pédopornographie, du piratage de données, ou bien encore une carte bancaire, du chantage, vous l'avez dit. À chaque fois, est-ce qu'il y a une imprudence de la part de la victime? Est-ce qu'on fait quelque chose de faux? Ou est-ce qu'on peut se faire attaquer, quelles que soient les précautions prises?
Alors, c'est un mélange de nouveau. Il y a de l'imprudence, il y a surtout un manque de conscience sur la réalité de la manière dont des fraudes peuvent se commettre. Et sur la vulnérabilité qu'on peut représenter face à celle-ci. Donc il y a tous ces aspects à prendre en compte. En fait, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de frontières par rapport à Internet, et donc les délits peuvent être commis depuis à peu près n'importe où du moment qu'on est connecté. Et puis après, au niveau de l'identification des problèmes, là, il y a un grand manque parmi la population. Mais il y a un grand manque, c'est pas à charge que je le dis, c'est plutôt de dire que les choses n'ont pas été faites pour que les gens soient capables de détecter ces problèmes et ces fraudes. On n'a jamais appris aux gens à lire une URL, ça fait 30 ans que le web existe, mais on n'a pas appris à l'école à lire un lien Internet. Le lien Internet, c'est le chemin à une information, et très souvent, dans les cas de ce qu'on appelle du phishing, ces arnaques sont basés sur une transformation de ce lien, une modification de l'apparence. Et si on éduquait un peu mieux les gens, on leur permettrait de mieux s'éduquer, on arriverait à réduire quand même drastiquement ce type de fraude.
On a l'impression aussi que la police doit rattraper un certain retard hein, pour lutter contre ces crimes numériques. Il y a une coordination nationale qui est en cours d'étude. Est-ce que les pouvoirs publics ont pris la mesure du phénomène et de notre vulnérabilité?
Alors, la police fait avec ce qu'elle a, quelque part, et avec ce qu'on lui permet d'avoir. Et ça, c'est important de le comprendre. Et puis, il y a aussi le fait que la police, quand elle forme des gens, ces gens se font des fois, quand ils deviennent très spécialisés, se font débaucher par le secteur privé, parce que c'est des profits de haut vol. Donc, oui, il y a une prise de conscience politique qui a tardé, qui n'est pas encore totalement là non plus. Voilà, il y a des moyens à donner et il faut aussi comprendre que ça coûte cher et que c'est pas que la police, hein, c'est aussi la justice. Les juges doivent être formés pour pouvoir traiter ces cas et accélérer le traitement de ces cas. On doit avoir des brigades plus autonomes, c'est-à-dire que aujourd'hui les brigades de criminalité informatique dans les services de police viennent en support à d'autres brigades. Donc on doit peut-être faire comme à Zurich, où on a une brigade qui gère ça à 360 degrés. Donc tout le processus de A à Z, du dépôt de la plainte au traitement judiciaire, tout est fait par cette unité. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup de coordination à mettre en place, beaucoup aussi de coordination au niveau international.
Mais il y a aussi une forme d'impunité, hein, parce que rien n'est encore tout à fait en place, à vous entendre. Est-ce que c'est l'âge d'or de la cybercriminalité, en attendant que, justement, la police se coordonne, que la justice soit à la hauteur?
Disons que les cybercriminels sont beaucoup plus dynamiques que peut-être ceux qui doivent réagir, c'est-à-dire peut-être nos autorités politiques qui sont plus laxistes par rapport à ces problèmes. On voit qu'on a de la peine à réviser aussi le code pénal pour des fois sanctionner un peu plus et un peu mieux et de manière plus précise les différents types d'arnaques en ligne, de fraude et autres. On a de la peine à peut-être améliorer cette collaboration au niveau international. Il y a des traités qui existent, hein, la convention sur le cybercrime et autres, mais c'est pas suffisant et c'est pas assez abouti. Donc là vraiment on n'est pas dans un âge d'or, on est dans quelque chose qui va encore augmenter et ça va continuer à augmenter tant qu'on n'aura pas pris des mesures à la hauteur du problème.
J'ai l'impression qu'on peut plutôt parler de prévention, c'est là que c'est porteur, ou d'empêcher la cybercriminalité, mais pas trop de la réprimer, tellement, encore une fois, ce crime est sans frontières.
Alors l'idée, c'est quand même de pouvoir la réprimer, mais c'est clair, ce que vous dites, c'est le point le plus important, c'est-à-dire la prévention, l'éducation à cette hygiène numérique ou à cette littératie numérique. Donc ça devrait commencer dans les écoles et on doit mettre en place les éléments nécessaires pour que les gens puissent se former en ligne, puissent accéder à des choses qui sont suffisamment vulgarisées et à la portée de tout un chacun pour comprendre ces différents points. Et ça doit être fait par des autorités pour qu'on puisse avoir une crédibilité dans les contenus qu'on propose aux gens pour qu'ils puissent se mettre à niveau.
D'autant plus important, pardon, que pour vous, c'est pas seulement le désarroi de la victime, hein, qui est en jeu, mais aussi tout un système, le système économique de nos sociétés.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que si par exemple on prend la cybercriminalité représente 1-2 milliards de fraude par année, c'est 1 ou 2 milliards qui sont pas investis sur le sol helvétique, c'est de l'argent qui est retiré de l'économie, c'est-à-dire que c'est de la croissance peut-être qui est touchée, c'est la confiance des ménages, c'est l'investissement, c'est la dépense sur le sol helvétique. Donc il y a vraiment plein de facteurs qu'il faut prendre en compte et aujourd'hui il faut le prendre sous cet angle-là aussi et pas simplement sous l'angle criminel et s'arrêter là.
On l'a vu avec la récente enquête de la RTS sur ces adresses e-mail piratées, avec des passwords aussi. Est-ce qu'on nage pas quand même en pleine naïveté dans ce domaine?
Alors, dans ce qui est arrivé, c'est-à-dire les gens ont fait confiance à des plateformes. Ces plateformes ont été victimes d'attaques et on a volé des données. Dans ces données, il y avait les mots de passe et les noms et les adresses e-mail des détenteurs de comptes. Alors, on peut pas faire grand-chose face à ça en tant que détenteur de compte. Par contre, on peut avoir une hygiène numérique qui est correcte, c'est-à-dire que quand on se tient au courant et quand une de ces plateformes se fait pirater, on change son mot de passe, on a des mots de passe différents pour chaque compte qu'on a. On a un gestionnaire de mots de passe, on active la double authentification, c'est-à-dire qu'en plus du mot de passe, on doit mettre un deuxième élément qui nous est communiqué soit par SMS, soit par une application depuis le téléphone, qui nous permet d'ouvrir l'accès au compte. Donc aujourd'hui, c'est des conditions qui sont indispensable, primordial à mettre en œuvre en tant qu'utilisateur, parce que derrière, c'est pas juste un compte qu'on nous vole, mais ça peut être une partie de notre vie. Et finalement, Internet nous représente de plus en plus au niveau de notre vie de tous les jours ou de notre vie professionnelle. Donc l'impact de ces différentes fraudes ou vols de données est autant personnel que professionnel et peut avoir des coûts non seulement économiques, mais aussi des coûts sur le long terme au niveau de l'emploi et au niveau de sa vie privée.
Merci beaucoup Stéphane Corr pour votre éclairage, on le rappelle, hein, vous êtes conseiller en questions numériques, des enjeux d'autant plus importants, et on en reparlera que l'Internet des objets arrive en courant dans nos maisons. À bientôt et bonne soirée.